France Culture.
Une désescalade, un apaisement, voire un retour à la normale pour les plus optimistes, c'est le nouvel horizon qui s'est dégagé lundi et concrétisé mercredi avec l'annonce puis l'entrée en vigueur d'un accord entre la Chine et les États-Unis. Côté américain, les droits de douane passent ainsi de 145% à 30% et côté chinois de 125% à 10%, et ce pour une durée de 90 jours.
The rapid nature that we were able to conduct and conclude these discussions is a testament to mutual understanding and mutual respect between the Chinese.
La conclusion rapide de ces discussions est une preuve de la compréhension et du respect mutuel entre la Chine et les États-Unis. La Chine a été assignée à un taux de 34% et c'est le seul pays qui a décidé de répliquer, mais avec des niveaux disproportionnés et asymétriques. Pour maintenir l'efficacité de notre réciprocité, le gouvernement a encore augmenté les droits de douane pour équilibrer la relation, et cela est arrivé à un point où les deux pays ont ajouré 125% de droits de douane. Avec les mesures non douanières, cela aboutit à ce qui ressemble à un embargo pour certains secteurs, ce qui n'était évidemment soutenable pour personne. Et donc aujourd'hui, avec cet accord, nous annonçons que nos droits de douane réciproques vont baisser de 115% pour atteindre 10%, et nous entamons une suspension de 90 jours pour négocier. Les Chinois aussi s'engagent à baisser de 115% leurs droits de douane pour arriver à 10% et de lever les restrictions non douanières.
La position de la Chine sur la guerre commerciale a été claire et stable. La Chine ne veut pas s'engager dans cette guerre, car il ne sort aucun gagnant des guerres commerciales. Mais si les États-Unis insistent pour nous impliquer dans cette guerre, alors nous n'aurons pas peur et nous nous battrons jusqu'au bout. Le monde traverse des changements inédits depuis un siècle. Les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis ne sont pas seulement d'importance pour nos deux pays, mais aussi pour la stabilité économique mondiale. La nature des relations commerciales est mutuellement bénéfique. Mais la clé est de suivre les principes du respect mutuel, la coexistence pacifique et les coopérations.
Après un week-end de négociations à Genève, en Suisse, le secrétaire au commerce américain et le vice-premier ministre chinois chargé de l'économie semblaient confiants dans l'efficacité économique d'un tel accord qui se double pour la Chine d'un sentiment de victoire diplomatique. Seule à avoir répliqué, seule elle a mené son combat et a dialogué d'égal à égal avec la puissance américaine, on l'entendait à l'instant. Mais peut-on vraiment faire le pari d'une forme de calme après la tempête et donc de stabilisation dans les relations commerciales internationales? Et surtout, que raconte la gestion de cette rivalité qui oppose les États-Unis à la Chine, du rapport à la négociation du Parti communiste chinois? La mondialisation telle que la conçoit Trump est-elle si éloignée que cela de la vision qu'en a le gouvernement de Xi Jinping? Derrière la victoire de cette semaine, c'est tout un pan de la façon dont la Chine entend se positionner sur la scène internationale qui se dévoile et que nous allons tenter de comprendre avec les trois invités de cette table ronde, Marie-Françoise Renard, Elvire Fabry et Stéphanie Malm. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes ensemblés en direct jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Dalia. Elvire Fabry, vous êtes économiste, chercheuse senior en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes rapporteur du groupe de travail sur les relations Union européenne et Chine. Vous êtes spécialiste de la sécurité économique des négociations commerciales. Ça tombe bien, ça va nous intéresser aujourd'hui. Et vous connaissez bien la nature des relations entre Union européenne et États-Unis, mais aussi entre Union européenne et Chine. Vous revenez, je crois, tout juste de Pékin. Un premier mot, peut-être pour commencer. Dans quelle mesure l'issue de ces négociations du week-end dernier est une surprise en soi? Dans quelle mesure pouvait-on s'y attendre et estimer que l'escalade ne durerait pas infiniment?
Je dirais que la désescalade est venue quand même
très vite, là, donc, en effet, a été une surprise, mais il faut bien considérer que ça n'est qu'un point de départ. C'est-à-dire qu'on était dans une situation d'embargo total entre les États-Unis et la Chine, parce que là, on s'est habitué à des droits de douane qui sont complètement hors sol. Et quand on parle de droits de douane de 125%, 145%, ce qui voulait dire pour certaines entreprises, je parlais encore avec une entreprise la semaine dernière qui importe des flacons de Chine pour faire des productions aux États-Unis, tout d'un coup, ils étaient confrontés à des flacons pour des produits cosmétiques des droits de douane de 170%, ce qui est totalement ingérable pour les entreprises. Et surtout pour un certain nombre de ces produits, il n'y a pas de substitution possible. Et ce que l'on a vu, c'est en effet une Chine qui s'est affichée avec une capacité de résilience énorme, colossale. Le message a été envoyé, c'était coûte que coûte, nous tiendrons bon. Et c'est même venu de Pékin, le message est même venu de Pékin, qui c'était même plus la peine de jouer à cette escalade de droits de douane qui s'arrêtait à 125%. Parce que lorsque l'on parle même aujourd'hui de 30%, de droits de douane impliqués sur les importations chinoises ou 10 sur les importations américaines, c'est déjà énorme, c'est colossal. C'est qu'il faut se rappeler que les droits de douane qu'on appelle de la nation la plus favorisée, les droits de douane moyens à travers le monde, sont aujourd'hui de l'ordre de 5%. On a eu de cesse de les diminuer à travers le monde. Donc c'est colossal. C'est une désescalade, ça n'est qu'un point de départ, ça n'est pas du tout une victoire américaine, ça montre simplement que c'était beaucoup plus difficile pour les États-Unis de endurer le choc de des 125% de droits de douane, et même pour les importations de biens qui viennent de Chine, c'est-à-dire que ça provoquait un ralentissement de la production côté américain à moyen terme, et puis un impact, on l'a déjà beaucoup commenté ces dernières semaines, mais un impact très important pour le consommateur, pour des produits de consommation de la vie courante.
D'où l'idée que personne n'est gagnant, c'est ce qu'on entendait aussi dans les extraits sonores diffusés un petit peu plus tôt.
D'autant plus que cette trêve de 90 jours, cette suspension de 90 jours, rajoute encore de l'incertitude en plus des négociations qui sont menées par les États-Unis avec le reste du monde. Donc on a même des séquençages aujourd'hui de suspension de droits de douane qui ne correspondent pas et qui continuent à entretenir cette incertitude qui est ce qu'il y a de pire pour les entreprises.
Et la Chine n'a pas caché qu'elle avait encore des atouts dans sa manche, on va dire, pour peser sur des négociations futures, en tout cas continuer à maintenir aussi ce rapport de force. Stéphanie Balme, vous êtes chercheuse et professeure à Sciences Po, vous êtes également directrice du Centre de Recherche Internationale, le CERI Sciences Po CNRS. Vous êtes spécialiste de la diplomatie scientifique et de la Chine globale, des relations Chine-États-Unis et aussi avec l'Union européenne. Vous avez vécu un certain nombre d'années en Chine, où vous étiez entre 2018 et 2019 diplomate. Alors il faut bien comprendre l'esprit aussi dans lequel la Chine a abordé cette négociation. Le 11 avril, Xi Jinping avait prononcé ces mots: depuis plus de 70 ans, la Chine pour son développement ne compte que sur elle-même et sur son dur travail, jamais du bon vouloir des autres, et nous ne craignons pas les assauts injustes. Dans quelle mesure jouer la carte de l'escalade dans un premier temps, puis celui d'imposer de se mettre autour de la table pour trouver un accord, peut-être vu comme une stratégie de la part du gouvernement chinois, avec cette idée, on l'entendait, de dire on a réussi à parler d'égal à égal avec les États-Unis.
Bon, d'abord, merci de votre invitation. Merci d'inviter une non-économiste à cette émission. Donc, alors, d'une part, je pense que, alors, vous nous conduisez à parler d'histoire. Je pense que c'est effectivement très important. On y reviendra peut-être dans le reste de l'émission. Mais ce qui est sûr, c'est que la Chine est bien plus préparée à faire face à l'Amérique, aux États-Unis, à l'incertitude, comme vient de le dire ma collègue, qu'impose en fait Donald Trump dans les relations internationales d'aujourd'hui, parce que la Chine a une relation conflictuelle, compliquée avec les États-Unis, disons quelques années après l'entrée de la Chine à l'OMC, donc on va dire depuis le milieu des années 2000. Et singulièrement, la première administration Trump avait mis en place des tarifs douaniers, avait mis en place un système pour vérifier très clairement l'état du déficit commercial entre les États-Unis et la Chine, etc. Et tout ça avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc, en fait, ce qui se passe dans la relation Chine-États-Unis est pour nous, Européens, extrêmement intéressante à regarder pour apprendre à négocier. précisément. Je ne pense pas qu'il y ait une façon chinoise de négocier. D'abord, là, comme on est dans la seconde administration de Trump, donc il y a la connaissance de la difficulté qu'il y a à entrer dans un rapport de négociation avec les États-Unis. Il y a une plus grande maturité, il y a un professionnalisme extraordinaire de la part des diplomates chinois. Et par ailleurs, ces négociations sont faites à un moment où le leadership américain qui conseille Trump sur la Chine était en train de changer. Et donc Marco Rubio, notamment, a eu un rôle absolument crucial. C'est un peu le Kissinger qui est en train de monter de l'ère Trump 2. Et donc les choses étaient très claires. Côté chinois, l'idée était nous serons dans un rapport de négociation extrêmement dur. Donc
on
ira jusqu'au bout. Et tout en sachant que l'économie chinoise est aussi dans une phase qui est compliquée, qu'il peut y avoir des risques très forts d'instabilité sociale en Chine au cas où la croissance économique baisse considérablement, mais que ce serait beaucoup. Mais le discours chinois en interne étant de dire que au moins nous sommes unis derrière une idée forte, celle d'une Chine qui doit s'imposer, et ce discours-là probablement serait plus facile à tenir avec une société civile en Chine qui ne serait possible de le tenir aux États-Unis avec une société beaucoup plus fragmentée.
Stéphanie, même juste une toute petite parenthèse qui a attisé ma curiosité. Vous parlez des diplomates chinois. Très concrètement, lors de ces négociations, alors que ce soit à Genève, mais de façon plus générale, dès lors qu'il s'agit de négocier avec les États-Unis, qui est envoyé sur le terrain? De quels diplomates on parle? Ce sont uniquement, on va dire, des économistes ou des représentants, on va dire, des institutions plus économiques, ou est-ce que c'est un arsenal plus large qui est envoyé?
C'est un énorme arsenal. Et en fait, c'est une question passionnante, cette idée-là. Parce que, alors, d'une part, vous avez le principal négociateur, qui est un peu l'équivalent du Zhu Rongji des années 90. Zhu Rongji, c'est un des grands économistes chinois. Et donc, c'est quelqu'un qui est absolument essentiel, parce que son premier objectif, c'est de maintenir la croissance en Chine. Et en fait, cette croissance ne peut être maintenue que si la Chine est au cœur de la globalisation et donc peut négocier en fait son rôle sur la scène internationale. Donc en fait, parmi les diplomates qui étaient présents, vous avez tous parlent extrêmement bien anglais, tous sont extraordinairement bien formés, généralement des doctorats ou des post-docs issus des grandes universités du monde, et il y a un décalage très fort entre la connaissance que ces diplomates ont des États-Unis et les diplomates américains qui connaissent très très mal la Chine et qui la connaissent mal parce qu'ils n'en parlent pas la langue, ils sont très peu socialisés ce pays, et ils n'en connaissent que ce que la propagande de leur parti, donc dans le cas présent le Parti républicain, peut dire de la Chine. Donc il y a un gros avantage, c'est qu'il y a une communauté chinoise extrêmement forte aux États-Unis, qu'elle a tendance à être très pro-Trump, elle est extraordinairement conservatrice, et qu'elle joue un rôle, mais qu'elle joue un rôle assez négatif, parce qu'elle joue un rôle qui tend à une escalade plus grande dans la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Donc quand on parle des relations sino-américaines, il ne faut pas uniquement se limiter aux grands leaders politiques, mais il faut prendre en compte la société civile. Côté américain, elle est très largement anti-chinoise.
Par ailleurs, on a pu lire dans la presse que les diplomates chinois avaient loué le professionnalisme des diplomates américains. Donc peut-être que cette fois-ci, ça a bien fonctionné de ce point de vue-là. Marie-Françoise Renard, vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université de Clermont-Auvergne. Vous êtes membre du laboratoire CERDI CNRS-IRD. Vous êtes spécialiste de l'économie chinoise. Alors, il y a les enjeux commerciaux et il y a les enjeux plus politiques. Est-ce que ces négociations sont aussi une façon pour la Chine de montrer qu'elle est unie politiquement face à Trump? Est-ce que c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une victoire?
Oui, alors ce qu'a montré Xi Jinping dans ses annonces, dans ses formulations, c'est qu'il ne céderait pas, qu'il était à égalité avec les États-Unis et que la Chine, effectivement, parlait d'une seule voix. Il est certain que la population chinoise a très probablement été d'accord avec les positions de Xi Jinping en disant on peut résister aux États-Unis, qui est quand même s'il y a une très grande propagande chinoise anti-américaine, qui est quand même l'ennemi numéro un, on va dire, avec en même temps une grande admiration, mais l'opposant principal, et donc de dire on résiste à l'opposant principal, et les Chinois pouvaient être fiers de cette réussite en disant, après tout, sur la scène internationale, on est aussi fort que Trump, mais on est plus raisonnable, on génère moins d'instabilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, la pause que l'on constate, c'est seulement la reconnaissance que le découplage des deux économies est impossible. Et en fait, on n'a absolument rien résolu. On a atténué l'inquiétude et donc les marchés financiers sont apaisés, les investisseurs sont apaisés. On peut relancer le commerce et limiter les stocks dans les ports ou dans les entreprises. Comme cela a été dit tout à l'heure, continuer à importer des biens intermédiaires dont on peut avoir besoin. Mais sur le fond, on n'a rien réglé. Et effectivement, la Chine a, cela a été dit, une grande résilience dont elle fait preuve dans cette crise. Et puis aussi, elle a plus de temps que Donald Trump. Les Chinois ont d'énormes, enfin, de gros problèmes internes qui expliquent d'ailleurs en partie cette crise. Oui, mais oui. Il n'y aura pas des élections dans 2 ans et il n'y a pas des comptes à rendre à un électorat. Et encore une fois, les Chinois sont probablement d'accord avec le président. Et donc, la Chine a une position qui est moins inconfortable que celle de Trump, même si elle a besoin absolument de relancer le commerce.
Et il est vrai, Marie-Françoise Renard, qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux chinois une très large partie de la population se réjouir de l'issue de ces négociations, en tout cas de façon beaucoup plus virulente et affichée que les diplomates ou les représentants politiques eux-mêmes, d'où cette idée d'un soutien de la population très fort. Elvire Fabry, et on a entendu beaucoup de choses dans les propos de Marie-Françoise Renard. C'est vrai que ces négociations, au-delà même de leur issue ou au-delà même de la façon dont elles ont été menées, on a l'impression que c'était aussi une façon pour la Chine de montrer qu'il y avait une forme d'indépendance vis-à-vis des États-Unis de leur part. La veille de ces négociations, le vendredi 9 mai, la Chine avait annoncé un bond de 8,1% de ses exportations pour le mois d'avril, un chiffre qui était 4 fois supérieur aux prévisions des analystes, et ce alors même que ses livraisons en direction des États-Unis avaient baissé de 17,6%. En fait, ça aussi, c'était la preuve par les chiffres que la Chine pouvait faire front toute seule, quelque part. C'était une forme de déclaration d'indépendance, mais par les faits.
Absolument. Et la Chine, en fait, se prépare à cette détérioration des relations États-Unis-Chine depuis 2018. C'est depuis la première guerre commerciale entre Trump et Xi, et en ayant activé une politique de diversification de ses échanges commerciaux de manière très active. C'est-à-dire qu'en fait, elle a réduit sa part des exportations vers les États-Unis dans l'ensemble de ses exportations à travers le monde. Sa dépendance au marché américain ayant réduit le risque économique est réduit. Et c'est pour ça qu'elle s'est notamment tournée d'abord beaucoup vers ces pays du voisinage sud-est asiatique, mais aussi, on le sait, tous les pays en fait de la route de la ceinture et de la soie, la Belt and Road, Amérique latine, Brésil. Et on a vu déjà, pendant le mois d'avril, une augmentation des importations venant du Brésil, notamment de tous les produits agricoles, exploser pour compenser en fait ce qui ne venait pas du côté américain. Et lorsque vous regardez les chiffres du mois d'avril, qui disent déjà quelque chose d'intéressant, vous observez qu'il y a une augmentation du surplus commercial de la Chine de 37% vis-à-vis de l'Indonésie, 23% vis-à-vis de l'Inde, 23% vis-à-vis du Vietnam, 39% vis-à-vis de l'Union européenne. C'est-à-dire que la Chine, en fait, a sur un mois, alors c'est trop court, je dirais encore, pour en tirer pour véritablement des leçons, mais a été capable déjà sur un mois, en fait, de diversifier très rapidement. Il va falloir prendre le temps de comprendre comment ça a été possible, parce qu'il n'y a pas une élasticité de la demande telle que vous puissiez avoir, des exportations qui tout d'un coup sont réorientées aussi rapidement. Mais dès juillet 2024, lors du troisième plénum, les Chinois avaient s'étaient accordés sur le fait, le parti communiste s'était accordé sur le fait que Trump 2 serait réélu. Et le jour de la réélection de Trump 2, moi j'étais à Pékin justement ce jour-là, nous étions, nous, Européens, beaucoup plus nerveux en face. Ils s'y attendaient, ils s'étaient préparés. Et donc, ils sont déjà très prêts, à la fois en termes d'organisation économique, et puis il y a ce moteur du nationalisme économique qui est très fort en Chine et dans toutes les couches de la société. Et même les étudiants que vous rencontrez, ils sont prêts. Il y a une sorte de mobilisation nationale pour tenir bon, quoi qu'il en coûte.
Tandis qu'à l'inverse, nous, au sein de l'Union européenne, on a vécu dans quoi, une forme de déni ou en tout cas de manque de moyens de se préparer. Qu'est-ce qui a prévalu finalement?
Je pense qu'on s'est pas assez préparé à Trump 2. Comme rationnellement pour nous, ça sort de notre entendement. On ne s'est pas assez préparé. On était beaucoup tourné vers la Chine. Et ces trois dernières années, on a beaucoup travaillé en termes de sécurité économique pour développer une stratégie de sécurité économique, réduire nos dépendances vis-à-vis de la Chine. Et on n'était pas du tout dans cet état d'esprit vis-à-vis des États-Unis. Alors, je pense que le réveil des Européens vis-à-vis de la dépendance en matière d'équipement de défense et de sécurité, et le besoin aujourd'hui de monter en puissance, c'est un enjeu de très long terme. Il va falloir investir beaucoup maintenant pour monter en puissance d'ici 10-15 ans. Mais ça, c'est un dossier ou un enjeu qui lui-même va avoir beaucoup d'implications sur le volet économique. Parce que on a besoin aussi peut-être de réduire notre dépendance aux États-Unis, pas tellement en termes de déjà pour le marché des biens, mais on se rend compte que notre dépendance aussi à certains services logiciels américains. Oui. Elle est très importante. Et si on peut peut-être jouer sur le surplus commercial des États-Unis et le besoin d'accéder au marché européen pour ces services, notamment pour l'accès à toutes les données européennes, et on s'apprête peut-être à le faire pour appliquer des sanctions, représente aussi pour nous une certaine vulnérabilité parce qu'il n'y a pas nécessairement de substitution. Donc c'est ce champ de la sécurité économique aujourd'hui qui s'élargit pour couvrir autant nos dépendances vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis des États-Unis. C'est un double de-risking.
Marie-Françoise Renard, vous souhaitiez réagir?
Oui, je crois que ça correspond aussi à un souhait de l'économie chinoise de modifier l'ordre international. L'ordre international qui a été décidé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l'Europe et les États-Unis. On voit bien qu'il s'est effrité sous l'effet d'un certain nombre de tensions et depuis quelques années, la Chine cherche à être le leader d'un autre ordre international dont personne ne serait exclu. Contrairement à ce que veulent les États-Unis, elle ne veut pas exclure les États-Unis, mais on voit bien sa diplomatie extrêmement active dans les pays du Sud pour décider de nouvelles normes, une nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance mondiale dans laquelle la Chine aurait un rôle plus important. Et en même temps qu'on avait ces discours sur les droits de douane où il y avait une annonce nouvelle tous les jours, eh bien Xi Jinping est allé dans trois pays d'Asie, le 10e anniversaire des accords avec l'Amérique latine a été fêté à Pékin cette semaine, et il y a une multiplication des annonces sur les pays du Sud qui est une sorte de cadeau entre guillemets que Trump a fait à Xi Jinping. Ce contexte-là, la Chine apparaît suffisamment raisonnable pour avoir encore plus d'intérêt pour les pays émergents et pour les pays en développement. Et sur le fond, mais on en reparlera peut-être dans l'émission, la question fondamentale, c'est la question des déséquilibres macroéconomiques.
On va tout à fait revenir sur cette question, Marie-Françoise Renard, et ce point extrêmement intéressant. Finalement, cette Chine qui incarne une forme de stabilité et donc de moindre prise de risque, notamment pour ses voisins à l'échelle régionale. Avant cela, Marie-Françoise Renard, j'avais quand même une question pour vous, pour essayer de bien comprendre dans quelle mesure, parce que là, on a beaucoup parlé du fait que la Chine arrivait pratiquement déjà victorieuse au sein de ces négociations, parce qu'elle avait bien préparé le terrain, parce qu'elle avait aussi commencé à modifier son écosystème économique également. Il faut quand même souligner un point, c'est qu'il y a des analystes, notamment de Natixis, qui avaient estimé que des droits de douane américains à 145% pouvaient faire plonger de 80% les livraisons destinées aux États-Unis, ce qui avant ce bras de fer-là, absorbait 15% de toutes les exportations chinoises. Ça menaçait quand même 6 millions d'emplois en Chine, Marie-Françoise Renard. C'était quand même un risque que le gouvernement chinois pouvait difficilement se permettre de prendre.
Absolument. Et surtout que l'emploi est aujourd'hui une des questions cruciales en Chine, voilà, et notamment l'emploi des jeunes. Donc, et bien sûr que cette guerre, elle est coûteuse pour tout le monde. Et d'ailleurs, les autorités chinoises l'ont beaucoup répété. Les guerres commerciales ont un coût pour tout le monde. Et elle a un coût pour les États-Unis, cela a été évoqué tout à l'heure, mais elle a aussi un coût important pour la Chine, dont les exportations représentent presque 20% du PIB. Et même si, comme cela vient d'être dit, la Chine a beaucoup diversifié ses partenaires, il y a des domaines pour lesquels elle a absolument besoin des débouchés, alors des importations, mais surtout des débouchés de la Chine, des débouchés vers les États-Unis. Donc effectivement, le coût, il peut être très élevé.
Et ce qui est intéressant, et on arrive là, Stéphanie Balme, peut-être à une question d'ordre un peu plus politique, c'est que cette escalade des droits de douane aurait pu amputer de 2,5% le PIB chinois. Or, il faut rappeler qu'assez récemment, Li Qiang, le Premier ministre chinois, avait annoncé officiellement un objectif de 5% de croissance lors de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire. Ne pas remplir cette promesse, voire cette croissance bien moindre que ce qui avait été promis, c'était aussi un risque d'un point de vue politique qui était couru.
Oui, bien sûr. En même temps, ne pas remplir cette promesse, comment dire, ou ne pas respecter cette promesse parce que la pression vient des États-Unis, c'est aussi un excellent argument pour le gouvernement chinois pour obtenir à peu de frais, en réalité, beaucoup de légitimité politique. Donc, quand on parlait de professionnalisme des diplomates tout à l'heure, il faut quand même dire que c'est un temps politique extrêmement intéressant et probablement Xi Jinping saisit là l'occasion de retrouver de la légitimité, une partie perdue pendant la période du Covid, difficilement regagnée après coup. Et la variable américaine est une variable d'ajustement structurel de la politique intérieure chinoise. Donc je pense qu'en ce moment, c'est un cas d'école, ce qui est en train de se passer. En écoutant attentivement ce que disent mes collègues, je me dis qu'il faut faire il faut faire attention à pas raconter une histoire sur la Chine qui serait une histoire d'une gouvernance absolument parfaite, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Elvire Fabry tout à l'heure, la préparation du gouvernement chinois à l'arrivée d'un gouvernement américain, quel qu'il soit, mais probablement trumpien, et c'est ce qu'avaient deviné les Chinois, en se disant de toute façon, ça sera moins compliqué avec Trump qu'avec un post-Biden. Parce qu'il y a aussi cette dimension, c'est que Trump apparaît anti-chinois, mais en fait, il est assez pro-Xi Jinping. En fait, il admire la façon dont le gouvernement chinois a réalisé sa transformation économique depuis l'entrée de la Chine à l'OMC. Et toutes les déclarations de Trump sont incroyablement dures à l'égard de l'Europe, mais elles ne sont pas du tout dures à l'égard des Chinois ni à l'égard de Xi Jinping. Au contraire, il le considère comme un excellent négociateur. Donc c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout économiste, mais ce qui me frappe, c'est qu'il me semble que nous, Européens, on doit se préparer aux situations désormais dans lesquelles les États-Unis et la Chine vont se mettre d'accord.
Et
ça, c'est vraiment très, très, très important. Pardon.
Et c'était moins le cas avec Joe Biden, cette espèce
de respect. Là, on était... Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui change avec un monde post-transatlantique, un monde dans lequel les États-Unis ne représentent plus l'Occident démocratique, constitutionnel, etc., c'est que les États-Unis et la Chine sont donc dans un rapport de transactionnel où il n'y a pas un conflit de modèle, il n'y a pas un conflit de modèle politique. Enfin, il y en a il y en a sur certaines dimensions. Mais c'est une dimension, par exemple, la dimension religieuse est beaucoup plus importante que la dimension démocratique. Donald Trump n'accuse pas le gouvernement chinois actuel de ne pas respecter les droits de l'homme. Vous voyez, en revanche, considère que son techno-nationalisme est un danger pour les États-Unis parce que les États-Unis ont exactement le même souhait, c'est-à-dire devenir aussi un régime techno-nationaliste. Vous voyez, donc
c'est une forme de langage commun qui émerge finalement.
Et oui, c'est une forme de langage commun qui émerge et en fait, c'est cette finalement, d'une certaine manière, on voit plus les États-Unis copier le modèle chinois aujourd'hui dans son discours sur son rôle sur la scène internationale que l'inverse. Donc c'est un grand moment chinois parce qu'en plus, le gouvernement chinois aujourd'hui est un gouvernement hyper techno, j'allais dire, qui est très scientiste, qui est très orienté sur la science, qui n'est pas du tout dans le déni scientifique comme le gouvernement américain, et qui par ailleurs joue un rôle clé dans les négociations climatiques, contrairement aux États-Unis. Et qui enfin a un discours et une politique et une stratégie à l'égard des Grands Suds. Donc c'est vrai que là, le leadership américain en prend un coup.
Il y a effectivement beaucoup de...
Et pour nous, Européens, on ne peut pas regarder dialoguer les États-Unis et la Chine comme ça sans rien faire. Au contraire, il faut saisir la balle au bon avec une stratégie claire et vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine.
Elvire Fabry, vous faites le même constat, vous qui observez ces relations à la fois entre Union européenne et Chine, États-Unis et Chine, vous faites ce constat qu'il y a finalement un langage commun effectivement qui s'est mis en place, qui a été partagé entre les États-Unis de Donald Trump et le gouvernement chinois actuel dès lors qu'il s'agit de négocier ou en tout cas de développer une vision de ce que devraient être les relations internationales et a fortiori commerciales.
Oui, en effet, une victoire de Kamala Harris aurait signifié encore une confrontation entre rivales systémiques. Alors que entre Trump 2 et Xi Jinping, on est beaucoup plus dans une relation transactionnelle où il peut y avoir cette confrontation et cette rivalité sur le terrain technologique, parce qu'ils sont tous les deux, ces deux grandes puissances sont dans une course à l'innovation technologique, mais sur des terrains variables, c'est-à-dire que la Chine a déjà pris position et assure un leadership sur toutes les technologies vertes. Pour tout ce qui est du numérique, intelligence artificielle, supercalculateur, biotech, là, c'est là que se joue véritablement la confrontation entre États-Unis et Chine. Et il ne faut pas exclure du tout, comme l'évoquait Stéphanie Balm, qu'on puisse avoir un accord qui finalement ne cherche pas à limiter l'interdépendance économique au-delà de ce secteur technologique. Il puisse y avoir un accord sur une facilitation des investissements américains en Chine ou chinois aux États-Unis. Pourquoi pas investissement chinois sur tout ce qui est industrie verte, puisque Donald Trump ne s'y intéresse pas, ne considère pas que ce soit un enjeu.
Et que là encore, la Chine a une certaine avance aussi.
Ah, c'est plus qu'une certaine avance. Elle est déjà, elle domine déjà complètement les panneaux solaires. On voit bien sur le terrain des véhicules électriques qu'on a un vrai problème, nous, en Europe. Mais toutes les pompes à chaleur, les éoliennes. À vrai dire, le véritable enjeu pour nous, Européens, aujourd'hui, au-delà de cette question de rééquilibrage aussi de nos échanges commerciaux, puisque la Chine ne s'ouvre pas aux services et que c'est là où on serait aujourd'hui très bon pour pouvoir rééquilibrer nos échanges commerciaux, notre véritable enjeu, c'est la capacité d'innovation chinoise. C'est que c'est quelque chose qu'on a encore du mal à percevoir et même à mesurer dans tous ces trois fameux secteurs de l'intelligence artificielle, supercalculateur et biotech. Mais la Chine est en train d'avancer de manière très très rapide et on risque de se réveiller après-demain avec là aussi des nouvelles dépendances ou en tout cas une avancée chinoise qui va créer de véritables écarts de compétitivité et en particulier je dirais dans tout ce qui concerne les applications de l'intelligence artificielle. On est en Europe à des années-lumière de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Où ils sont complètement tournés. Vous avez un fourmillement de start-up qui sont en train de développer des applications d'intelligence artificielle qui vont finalement transformer complètement l'économie chinoise, la gestion d'une ville, de l'eau, des transports, de tout, pour les entreprises elles-mêmes, au sein des entreprises. Et le véritable enjeu pour les Européens, il est là. Il est là, c'est-à-dire que de prendre la mesure dans la façon dont on va négocier à la fois avec Trump. Si on se donne moins accès, si on est dans une relation plus compliquée avec les États-Unis, y compris pour accéder à certaines technologies sur lesquelles on a pris du retard et qu'on n'a pas assez développé, vis-à-vis de la Chine, dans la façon avec laquelle on va gérer la plus ou moins ouverture de notre marché, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, d'essayer d'éventuellement conditionner l'investissement chinois à des critères de transfert de technologies et autres. C'est un équilibre délicat pour les Européens à trouver dans les mois qui viennent.
C'est un équilibre délicat pour les Européens, mais Marie-Françoise Renard, on en revient à l'idée que vous évoquiez en tout début d'émission, celle d'un découplage impossible aussi finalement entre États-Unis et Chine avec cette crispation notamment autour du secteur technologique, on va dire. Et d'ailleurs, on pourrait se souvenir aussi que le 11 avril, quelques jours après le fameux Liberation Day, l'administration Trump avait déjà fait machine arrière avec notamment le cas des smartphones d'Apple, les ordinateurs Dell ou encore les produits Hewlett-Packard ainsi que de nombreuses puces qui ne sont généralement pas fabriquées aux États-Unis. Tout cela, ça avait été exempté aussi de cette fameuse annonce du Liberation Day qui correspondait à l'annonce de la hausse des droits de douane. C'est la preuve, encore une fois, Marie-Françoise Renard, que toute tentative de découplage est fondamentalement vouée à l'échec.
Oui, il y a une très forte imbrication des chaînes de valeur et les entreprises américaines ont elles-mêmes participé à la construction de l'écosystème technologique chinois. Par exemple, Apple, qui a investi beaucoup en Chine, qui est très implanté en Chine, a participé avec la Chine à la construction de cet écosystème. Alors, les pays sont interdépendants par leurs investissements, par leur commerce international, et puis par le fait que les chaînes de valeur étant internationalisées, les pays, pas seulement les États-Unis et la Chine, d'ailleurs un grand nombre de pays, mais en tout cas ces deux pays sont interdépendants. Comme cela a été dit par Edwige Fabry, depuis le premier mandat Trump, la Chine a beaucoup diversifié son commerce, mais elle reste dépendante des États-Unis, et puis d'autre part, les deux pays sont de très grands marchés, que les entreprises ni chinoises ni américaines ne sont pas prêtes prête à laisser tomber. Et il y a quelques jours, le ministère chinois du commerce a réuni un groupe de travail avec des entreprises étrangères, des chambres de commerce, etc., pour essayer de trouver des solutions, notamment sur des produits qui sont indispensables. Alors, on sait que la Chine, par exemple, en matière de semi-conducteurs, veut améliorer sa technologie. Donc, elle a besoin des produits américains. Elle a besoin d'éthane qu'elle importe des États-Unis pour fabriquer des plastiques. Mais elle possède des terres rares et surtout un quasi-monopole sur l'exploitation des terres rares dont ont besoin les États-Unis. Donc ça va bien au-delà de dire tous les jouets consommés, utilisés aux États-Unis sont fabriqués en Chine. C'est vraiment des enjeux qui sont au cœur de l'innovation, au cœur de la technologie, qui est le secteur pour lequel les deux pays veulent être le leader dans le monde, dans lesquels ils sont le plus en concurrence. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur une possible proximité entre Trump et Xi Jinping. Je me souviens très bien que pour la première élection de Trump, les Chinois craignaient beaucoup qu'il perde. D'abord, ils l'appréciaient beaucoup, ils appréciaient sa personne. Et puis, ils disaient Trump ne va pas nous embêter sur les droits de l'homme, contrairement à Hillary Clinton. Et là, on voit bien aujourd'hui que, en fait, ils savent discuter. Alors, comme cela a été dit, les Chinois ont appris à discuter avec les Américains. Mais de toute façon, il est impératif pour la Chine, alors pour les États-Unis aussi, mais pour la Chine, de pouvoir avoir des débouchés pour ses exportations, parce qu'il y a une surproduction en Chine depuis des années. Le problème n'a pas été réglé. Et là, on touche à la question fondamentale. C'est que les problèmes du commerce international aujourd'hui, ce sont des problèmes qui reflètent les déséquilibres macroéconomiques d'un grand nombre de pays, notamment de la Chine et des États-Unis. Les Chinois ne consomment pas assez.
Ça, c'est le marché intérieur.
Ils sont obligés. La consommation intérieure est faible, mais ils exportent beaucoup et ils épargnent beaucoup. Mais donc, ils ne consomment pas suffisamment ces produits. En revanche, ils sont devenus beaucoup moins dépendants des produits étrangers. Les Chinois consomment de plus en plus de produits chinois. À l'inverse, aux États-Unis, la consommation est très importante, mais l'épargne est insuffisante et il y a un fort déséquilibre qui fait que les États-Unis importent beaucoup de biens. Et tant qu'il n'y aura pas des mesures de politique économique interne, domestique, dans chacun de ces pays qui seront prises, eh bien, on ne réglera pas la question de ces déséquilibres. On peut mettre les droits de douane qu'on veut, on ne réglera pas cette question. Et c'est un problème qui est absolument crucial parce que ça fait des années, depuis 2010-2013, que la Chine annonce soutenir la consommation intérieure, ce qui n'a pas été fait, alors elle peut le faire. Mais pour l'instant, ça a été surtout un soutien à l'offre, un soutien aux entreprises. Et donc ça, sans doute que dans un avenir assez proche, le gouvernement va prendre des mesures parce qu'il n'a pas tellement le choix. Pour les États-Unis, il faudrait également prendre des mesures, mais on voit mal Donald Trump essayant de limiter la consommation pour développer l'épargne aux États-Unis. C'est beaucoup plus difficile à faire. Il n'a pas les moyens politiques de Xi Jinping.
Oui, on en revient à la structure.
Et d'ailleurs,
même,
le contexte est complètement différent. Mais il faut bien voir, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet, qu'avec la mondialisation, on a eu beaucoup de gains, mais on n'a pas tenu compte des perdants. Il y a quelques années, Larry Summers, qui était l'ancien secrétaire d'État au Trésor et qui a été le conseiller de Barack Obama, s'est opposé, enfin, n'était pas très partisan du traité transatlantique parce qu'il disait avant d'élargir la mondialisation, il faudrait en voir les effets et voir ce qu'on a gagné. Et que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis ou d'autres grands pays, eh bien, la mondialisation s'est accompagnée d'une hausse très forte des inégalités. Ce sont les classes moyennes et les plus pauvres qui en ont fait les frais. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences sur les déséquilibres. Et c'est ces questions-là qu'il faut régler. Tant qu'on n'aura pas modifié la répartition des revenus, on ne pourra pas régler ces questions.
Mais vous faites bien de souligner, Marie-Françoise Renard, qu'effectivement, cette question-là, ça fait longtemps aussi que le gouvernement chinois se la pose, la question de savoir comment relancer aussi la demande intérieure et vous l'avez déjà mentionné aussi, la question de l'emploi qui va se poser de façon de plus en plus prégnante également. Stéphanie Balm, je voudrais juste rebondir sur ce qu'on disait sur cette crispation autour notamment du secteur technologique, avec cette idée que le découplage sera de toute façon impossible. Cette crispation-là, elle s'est incarnée de façon assez multiple ces derniers temps. C'était le cas de Nvidia, et on pourrait d'ailleurs remonter à Joe Biden, qui avait le premier avait tenté de restreindre, on va dire, les exportations de puces produites par Nvidia en direction de la Chine. Alors Nvidia avait tenté de contourner, on va dire, cette restriction-là en produisant des puces de moindre capacité, de moindre performance, on va dire, à destination uniquement de la Chine. Moi, ce que je voudrais savoir, Stéphanie Balm, c'est dans quelle mesure il y a effectivement cette dépendance, dans quelle mesure la Chine fait, quelque part, contre mauvaise fortune, bon cœur, et se contente de puces de moindre qualité de la part d'Nvidia. Est-ce que ça grève véritablement sa croissance? Est-ce que ça représente un défi pour elle que d'avoir cette forme de restriction-là? D'avoir des puces, les fameuses H20 de Nvidia, mm-hmm. est-ce que ça c'est une menace pour elle? Est-ce qu'elle le conçoit ainsi?
Alors, je vais peut-être répondre de manière un peu indirecte à la question, ou en replaçant la question vers une problématique plus globale et plus générale encore, qui est vraiment la question de l'articulation entre la réelle dépendance de la Chine sur certains secteurs avec les grandes puissances de ce monde, et sa nécessité d'être beaucoup plus souveraine, c'est-à-dire sa nécessité de créer une technologie qui est in-house, enfin qui est made in China. Mais en fait, cette tension, c'est la même aux États-Unis, c'est la même en Europe, c'est exactement le même problème, c'est-à-dire comment vivre dans un monde globalisé sans en être dépendant en fait des grandes puissances qui produisent de la technologie. Et là aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le modèle politique chinois, il faut retomber quand même aux fondamentaux, c'est-à-dire comment fonctionne cet État parti armée unique, qui est un modèle très différent et du modèle américain et du modèle européen. Il a présenté des avantages absolument considérables pendant la première partie de ce qu'a été la République populaire de Chine, parce que ça a produit du totalitarisme, le maoïsme, en gros, pour dire les choses très clairement. Et puis ensuite, avec la volonté de changer de Chine, mais pas changer de modèle politique chinois à partir de 78, et malgré la grande crise de 89, qui est la grande crise politique du moment du refus de la Chine de devenir une démocratie, depuis, l'idée a été de garder la structure de l'État parti armée unique, je reviens là-dessus, pour avoir une vision de très long terme et s'assurer qu'en fait, c'est ces structures-là, monolithiques, qui décident d'une vision chinoise. Et pour revenir à la question technologique, ça a un effet positif. Parce qu'en réalité, la production de connaissances, la production de technologies aujourd'hui nécessite de centraliser quoi ? Je résume rapidement, mais des données et des fonds, et souvent des fonds publics. Et pourquoi public? Pour éviter l'équivalent d'un Elon Musk chinois, par exemple. C'est-à-dire la privatisation d'une partie d'un projet qui est un projet techno-nationaliste. Je suis consciente de résumer les choses, mais disons que voilà, je dis les choses très clairement. Et donc, ça a permis à la Chine, en 2015, bien avant tout le monde, de produire un document connu de tous les experts, Made in China 2025, qui ne veut absolument pas dire que la Chine veut au contraire être Made in China, mais c'est en fait inventé en Chine, c'est fabriqué technologiquement en Chine, et d'avoir une vision très très claire, qui consiste à dire on doit être indépendant sur le plan technologique progressivement, et non seulement ça, mais en plus on va exporter cette technologie dans les pays du Grand Sud, pour essayer d'obtenir ce qu'on n'a pas à ce moment-là, c'est-à-dire le leadership de la gouvernance économique mondiale, pour obtenir le leadership de la gouvernance technologique mondiale. Et c'est ce qui a permis, c'est le premier document historiquement, hein, dans l'histoire de l'humanité, j'allais dire, qui fait que c'est la Chine qui d'abord construit une vision techno-nationaliste, orientée sur la technologie, et à partir de là, les autres puissances, notamment celles depuis le 19e siècle, l'Europe, puis celles dominantes, le 20e siècle, les États-Unis, ont décidé d'une un contre-modèle, une contre-vision par rapport à la Chine. Mais c'est la Chine qui fait l'agenda depuis ces années-là, sans en avoir forcément les moyens à l'époque, mais qui avait une vision, avec des ressources, des ressources humaines, un budget, une vision politique, ce qui manque toujours l'un des composantes, ou aux États-Unis ou à la Chine. Donc je pense que ça, ce qui est important, et du coup, je reviens à cette idée qui, moi, me pose problème comme chercheur aujourd'hui, qui est que le modèle chinois, qui était le contre-modèle depuis la chute du mur de Berlin, qui était cette idée d'un régime marxiste qui refusait la démocratie et qui semblait, bon, mot d'an mal an, grâce à la globalisation, a permis de sortir la Chine de la pauvreté, mais ne proposait pas de contre-modèle aux grandes puissances, ben, c'est aujourd'hui le modèle dominant. Et le modèle qui donne le « là », notamment à la grande puissance américaine.
C'est le modèle dominant. Pour autant, Marie-Françoise Renard, et là je reviens aux problématiques que vous abordiez il y a un instant, et notamment sur les problèmes internes, on va dire à l'intérieur des frontières chinoises, notamment de ce marché, de cette demande intérieure, et puis globalement de ce soutien aussi à la classe moyenne. Vous l'avez dit, c'est plutôt une politique de l'offre plus que de la demande qui est menée. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il n'y a pas que le secteur de la technologie, évidemment, qui est concerné. Il y a un autre secteur qui est pour le coup très manufacturé. Alors là, on s'éloigne de l'inventé en Chine pour vraiment revenir au fabriqué en Chine. C'est le secteur de l'habillement qui est frappé de plein fouet par ces droits de douane, avec notamment cette concentration de Donald Trump sur les petits colis, une guerre qu'on mène aussi au sein de l'Union européenne. Ça aussi, c'est une menace. En fait, ce n'est pas parce que la Chine a tenté ou est en train de changer de modèle que pour autant tout son secteur manufacturier ne représente plus un enjeu pour elle.
Bien sûr, il représente un enjeu d'emploi qui est extrêmement important. Alors, comme vous l'avez rappelé, c'est un des problèmes aujourd'hui de la Chine, qui est le problème de l'emploi, pour différentes raisons, mais il y a notamment un chômage important des jeunes, et puis l'évolution, elle est bloquée par des institutions qui n'ont pas assez bien évolué. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphanie Balm sur les questions que peuvent proposer ce modèle chinois qui, d'une certaine façon, a fait preuve quand même de sa réussite, c'est indiscutable. Mais il y a à l'intérieur des blocages institutionnels qui empêchent une progression qui aujourd'hui est indispensable. Je pense notamment au Rukou, qui est cette espèce de livret de famille qui indique qu'on habite en ville ou à la campagne et qui fait que on peut perdre ses droits sociaux lorsque, par exemple, un rural va travailler en Chine. Alors, il a été largement assoupli, mais pas encore dans les grandes villes, notamment de la côte Est. Et donc, il va peser sur le chômage parce que les Chinois peuvent avoir des difficultés à se déplacer, à aller travailler ailleurs ou un endroit où on peut leur offrir des emplois, si leurs enfants n'ont pas droit à l'école publique, etc. Et donc, il y a des changements institutionnels qui sont nécessaires en Chine. Il y a encore une fragmentation et une concurrence entre les provinces. Et puis, bien sûr, tous les problèmes sociaux, c'est-à-dire que les retraites ne sont pas très importantes. Xi Jinping a toujours dit qu'il ne voulait pas d'un État-providence. Donc, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en matière d'aide médicale, en matière de protection sociale d'une façon générale, mais c'est encore très insuffisant. Et donc, aujourd'hui, non seulement les Chinois ont peur de perdre leur emploi dans un certain nombre de secteurs, mais ils vont continuer à avoir une épargne de précaution parce qu'il faut payer la santé, il faut payer les études de leurs enfants, et donc ils n'ont plus envie d'avoir des enfants. Également parce que la société s'est beaucoup occidentalisée, entre guillemets, donc les jeunes Chinois vivent comme les jeunes Européens. Et donc, cette crise-là ne fait qu'accroître ces problèmes et rendre l'adaptation encore plus difficile. Parce que, bien sûr, le secteur textile représente un enjeu très important pour la Chine. Alors, le voyage de Xi Jinping en Asie, qui était prévu avant les problèmes avec Donald Trump, a porté notamment sur des négociations de ce genre pour essayer de trouver des débouchés ailleurs, chaque pays incitant la Chine à venir investir dans son propre pays. Mais effectivement, les problèmes internes de la Chine qui existaient avant sont accrus par ces droits de douane, par cette politique commerciale très sévère. Alors, j'ai dit tout à l'heure, Xi Jinping a un peu plus de temps que Trump, parce qu'il n'y a pas d'élection à l'horizon, c'est sûr, mais il a la pression de la stabilité sociale. Et la stabilité sociale est un objectif prioritaire, parce qu'il ne faut jamais oublier que la politique internationale de la Chine a pour objectif de servir ses intérêts domestiques, et le premier de ses intérêts domestiques, c'est le maintien au pouvoir du Parti communiste. Donc il ne faut surtout pas avoir de l'instabilité sociale, et grâce aux réseaux sociaux, à diverses choses, le gouvernement est très attentif aux réactions de la population. Il ne faut pas croire qu'il y a d'un côté une population tétanisée par le pouvoir et d'autre part un pouvoir indifférent à ce que pense la population. C'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Et on en revient là, Marie-Françoise Renard, à cette figure de Donald Trump, en tout cas la façon dont les négociations ont été menées et qui ont réussi à fédérer aussi une partie de la population. Cela dit, je reviens à cette idée des petits colis. Alors on le comprend, il y a une importance énorme, notamment pour le secteur de l'habillement, parce que ce sont tout un réseau d'ateliers et donc une très grande partie de l'emploi, comme le disait Marie-Françoise Renard à l'instant. Elvire Fabry, on pourrait se dire que cette menace, elle est décuplée par le fait que l'Union européenne a décidé aussi de s'emparer de ce sujet-là. Bruxelles veut mettre fin à l'exemption de droits de douane sur les petits colis de moins de 150 euros dès 2026. C'est beaucoup plus tôt, 2 ans plus tôt que la date prévue par la réforme de l'Union douanière. Et puis, chaque État membre entend y aller aussi de sa propre politique. De notre côté, Éric Lombard a annoncé le 29 avril dernier vouloir instaurer des frais de gestion à la charge des plateformes qui importent ces colis. Ça, vis-à-vis de ça, la Chine voit encore là encore une menace où elle se dit qu'elle arrivera de toute façon à contourner. Dans quelle mesure l'Union européenne représente, de ce point de vue-là, une source d'inquiétude aussi pour le gouvernement chinois ?
Ben, on se réveille aujourd'hui, là aussi, parce qu'on a, je trouve, un peu un temps de retard un peu systématique sur trop de sujets vis-à-vis de la Chine, avec des plateformes de distribution en ligne qui sont des géants. Et qui sont en train non seulement de couvrir le marché européen, le marché américain, mais le monde entier. C'est-à-dire que c'est tout leur réseau, là encore une fois, de la Belt and Road, qui font que la Chine approvisionne le reste du monde avec des produits dont les prix sont tellement écrasés. Si vous jetez un coup d'œil sur les plateformes de Temu, Shein, on en parle beaucoup parce que vous évoquez l'exemple de l'habillement, mais tous les produits de la consommation courante sont accessibles à des prix mais totalement imbattables. Avant d'atteindre même 150 euros, il faut en acheter beaucoup. Donc c'est une menace pour toute l'industrie européenne immédiate qui va toucher de plus en plus de producteurs dans tous les secteurs. Donc je dirais que première étape, c'est en effet de supprimer cette franchise, j'ai envie de dire, des petits colis. Et c'est ce qui explique que le surplus commercial de la Chine continue à exploser. Alors, pour revenir juste à la question que vous évoquiez avant, à propos de la consommation chinoise, je pense qu'il faut revenir au principe de la circulation duale qui avait été adoptée par la Chine en 2020, qui faisait que la Chine voulait d'abord accroître la dépendance du reste du monde à la production chinoise et renforcer sa consommation interne, donc dépendre elle-même beaucoup plus de sa demande interne. On voit, comme vous l'évoquiez, que ça, pour le moment, c'est un échec de Xi Jinping, mais aussi parce que ces dernières années, il a continué à vouloir orienter l'investissement vers l'innovation et vers la manufacture plutôt que vers la consommation interne. Il y a une énorme réserve là de croissance économique pour la Chine. Tous les soutiens budgétaires qui ont été annoncés récemment ne sont encore que des mesures relativement superficielles et ce sont presque des bons pour achat de frigidaires et produits de consommation courante qui auront un effet très temporaire. La confiance du consommateur chinois n'est pas là. Mais il faut là aussi raisonner un peu à plus moyen long terme. Puisqu'une fois que la Chine sera dans une position de maîtrise technologique et aura créé cette dépendance du reste du monde, pas simplement à sa production, mais à ses technologies, et pourra à ce moment-là mettre l'accent aussi sur la consommation interne, on ne voit pas très bien ce qui pourrait, à ce moment-là, permettre de compenser un peu ces déséquilibres macroéconomiques.
Stéphanie Balm, vous vouliez réagir sur cette question.
On continue, hein, parce que je suis, enfin, moi-même, je suis passionnée par ce qui est dit. je réalise en fait, en écoutant mes collègues, à quel point l'objet Chine est complexe et complexe pour les analystes que nous sommes, mais aussi pour produire des politiques publiques et pour aussi établir une stratégie, parce que finalement, le monde était bien plus simple lorsque les relations transatlantiques, en fait, structuraient ce qu'on appelle le G3, les relations entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et depuis le positionnement du Trump numéro 2, en fait, la vision américaine ou la vision trumpienne des relations internationales, et y compris des relations économiques internationales, donne à la Chine tous les moyens de triompher. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont en capacité de passer des deals avec les États-Unis, Mais ils sont aussi en capacité de dire aux États-Unis, en fait, vous représentez cet Occident qu'on critiquait, c'est-à-dire nous sommes, parce que la Chine, par exemple, a un discours très anti-woke, et donc se retrouve complètement dans une vision trumpienne du monde. Et en même temps, joue aussi sur le sentiment post-colonial, anti-colonial, anti-occidental, et donc, en fait, peut se présenter comme étant, faisant un jour un deal avec les États-Unis, et le lendemain de dire qu'en fait, ils sont le leader du monde des non-alignés d'aujourd'hui, à savoir des grands Sud. Et c'est ça la difficulté, en fait. Ce qui imposera une forme de résilience, d'agilité de nos politiques, et singulièrement de la politique européenne à l'égard de la Chine.
Et cette volonté-là, elle s'incarne très concrètement. On l'a déjà évoqué dans l'émission, mais mardi dernier, Pékin a accueilli les représentants des 33 pays d'Amérique latine qui composent la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caraïbes. Xi Jinping et le président brésilien Lula s'étaient exprimés à cette occasion.
Comme représentant majeur du Sud global, la Chine et le Brésil savent qu'il n'y a pas de gagnant à une guerre des droits de douane et à une guerre commerciale. Le protectionnisme n'est pas la bonne réponse aux défis rencontrés. La Chine et le Brésil soutiennent les principes du libre-échange et du système commercial multilatéral, qui créent un environnement international ouvert, inclusif et non discriminatoire, et maintiennent la vitalité de la croissance économique mondiale.
Les derniers mois, le monde est devenu plus imprévisible, plus instable et plus fragmenté. La Chine et le Brésil sont déterminés à protéger l'unité de leur voix contre l'unilatéralisme et le protectionnisme.
Marie-Françoise Renard, on entend là à travers ces extraits de discours politiques tous les enjeux qu'on vient d'évoquer avec Stéphanie Bell, mais c'est tous les enjeux de représentation aussi, cette idée d'une Chine qui serait, on va dire, une forme de pilier aussi économique, qui représenterait une forme de stabilité. On sait les règles selon lesquelles elle fonctionne et on peut se projeter aussi. Et puis il y a ce discours, effectivement, des États non alignés, c'est ce qu'on entend là. On peut se dire que de ce point de vue-là, les États-Unis, non seulement en menant cette guerre commerciale, mais aussi en menant tout un tas d'autres politiques. Je pense notamment à la fin du USA, en se retirant de certains, leur présence de certains pays, laisse quelque part un boulevard à la Chine de ce point de vue-là.
Oui, absolument. Alors la Chine a eu une sorte de storytelling très efficace vis-à-vis des pays du Sud en disant nous aussi on a été colonisés avec les comptoirs sur la côte Est, etc. Alors que nous ne sommes pas des colonisateurs. Et depuis le début des années 2000, il y a une diplomatie économique qui est extrêmement active et un discours extrêmement attractif pour les pays du Sud. Ça ne veut pas dire qu'ils suivent l'opinion politique de la Chine. On n'est plus dans la période avec un bloc communiste, un bloc capitaliste. C'est pas du tout ça. On peut avoir des points communs, des votes semblables aux Nations Unies entre la Chine et des pays qui ne soutiennent pas son régime politique, mais qui sont d'accord pour limiter l'impact de l'Occident. Alors cela pose des tas de questions, mais la Chine en profite pour pousser l'internationalisation de sa monnaie, le renminbi. Elle est devenue le premier bailleur bilatéral des pays en développement, c'est leur premier prêteur, et elle, c'est bien sûr un débouché, notamment avec son projet Une Ceinture, Une Route, qui permet aussi de valoriser ses capacités très importantes dans la construction d'infrastructures, les ports, les trains, etc. Elle a énormément développé sa marine commerciale, et donc aujourd'hui, la Chine veut, comme on le disait tout à l'heure, devenir le leader d'un monde non occidental, mais qui inclurait tout le monde. Elle défend officiellement le multilatéralisme, donc elle ne fait pas comme les États-Unis en disant si vous voulez
c'est
pas
ça,
de sanctions, vous commercez pas avec le reste du monde. Vous faites ce que vous voulez, vous commercez avec tout le monde, vous avez les opinions politiques que vous voulez. On ne va pas faire d'ingérence dans votre pays, on ne va pas regarder si vous respectez les droits de l'homme, mais chacun va pouvoir avoir ses normes et bien sûr on va s'arranger pour que ce soit les normes chinoises qui soient acceptées.
Et là Marie-Françoise Renard, on arrive à un point essentiel. Je suis désolée de vous couper parce que je crois que Stéphanie Bell veut réagir et puis j'aurai une question pour Elvire Fabrice sur bien sûr quelle place ça laisse à l'Union européenne à partir du moment où on a Stéphanie Bell cette idée d'une forme de réelle politique finalement. On a des liens, on commerce ensemble, on a des liens diplomatiques. au-delà même des positions politiques, ce qui compte, c'est l'intérêt finalement de chaque pays, au-delà d'adhérer à des formes de valeurs. C'est ça qui se dessine.
On dirait un cours de relations internationales à l'université de Pékin. C'est plus compliqué parce qu'il y a évidemment, c'est très politisé comme argument. Il y a la politique est partout dans cet argument. Donc il donne l'impression d'une et le réalisme politique, c'est aussi un regard politique sur le monde. En fait, en écoutant l'extrait tout à l'heure, j'ai eu un flash qui est flash d'un cours que j'ai reçu en relations internationales quand j'étais étudiante en Chine à l'université de Fudan. Et on nous enseignait, pourtant je suis pas si vieille, mais on nous enseignait la théorie des trois mondes de Mao Zedong. Et pour montrer à quel point le monde a changé. Donc la théorie des trois mondes de Mao, c'est du point de vue chinois, c'est de dire qu'en fait, il y a deux puissances qui polluent le monde, c'est les États-Unis et l'Union soviétique, et qui dominent et qui sont dominantes, années 70. Hein. Deuxièmement, il y a les pouvoirs intermédiaires, le Japon, le Canada, l'Union européenne, mais qui dépendent complètement des deux puissances précédentes. Et enfin, les pays pauvres qui parlent au nom du Sud, et le leader des pays pauvres, c'est la Chine. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui accuse les États-Unis de penser le monde avec toujours cette logique de la guerre froide. Tout simplement, c'est pour dire à quel point, un, le monde a changé, mais deux, à quel point aussi, il y a une très longue histoire dans les pays du Sud pour placer la Chine comme leader du monde du Sud. Mais c'est un discours politique aussi, et au-delà du commerce, ils ont aussi des ambitions géopolitiques. Et les acteurs chinois dans les Grands Suds ne sont pas que des acteurs commerciaux. Il y a la sécurité nationale, il y a la défense, etc.
Elvire Février, en quelques secondes, car cette émission est en train de se terminer, quelle place ça laisse à l'Union européenne à partir du moment où on pourrait se dire qu'on croit aussi aux droits de l'homme, à un certain nombre de valeurs dans cette reconfiguration-là?
Mais la Chine défend un statu quo des règles multilatérales et de l'OMC, alors que l'Union européenne veut aller plus loin et veut se mettre autour de la table toutes les puissances moyennes aussi pour aller plus loin sur le climat, pour aller plus loin encadrer l'utilisation des subventions. Et il faut se méfier du narratif chinois parce qu'en effet, ils sont très très bons. Mais en termes d'inclusivité, il s'agit surtout de donner accès à tous ces pays aux technologies et à la production chinoise.
Et on retient à dire Fabrice cet avertissement qui est très important. On aura l'occasion de poursuivre cette discussion, mais merci infiniment à toutes les trois d'avoir participé à cette émission aujourd'hui.